Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Olivier de Coursac, bonjour.
Bonjour.
Que s'est-il passé ce 21 juillet 1969 ?
Eh bien, on a assisté à un événement incroyable dans l'histoire de l'humanité. C'est le premier pas de l'homme sur la Lune. Alors, 21 juillet, c'est heure française, parce que c'est le 20 juillet aux États-Unis. En fait, en fin de journée, et pour la France, ça a été vers 2h du matin.
On sait à quelle heure précisément ils ont posé le pied ?
Oui, on a une heure GMT précise. Mais enfin, l'important, c'est que c'est pas tant l'heure, c'est le moment lui-même. C'est vraiment historique. C'est un événement qui s'est préparé depuis de longues dates, que les Américains ont mis toute leur industrie, vraiment toutes leurs énergies à préparer. Et ça a été en fait le début de la fin de la guerre froide, puisque à partir de cet événement et de sa préparation, en fait, l'Empire soviétique n'a pas pu suivre au niveau des technologies qui avaient été développées. Et ensuite, on a connu la fin de l'Empire soviétique 20 ans après.
Et en même temps, c'est un fruit de la guerre froide, puisque sans la rivalité avec l'URSS, jamais un tel événement peut-être n'aurait eu lieu.
Sans la rivalité avec l'URSS, ça n'aurait pas eu lieu. Et puis sans l'arrivée de von Braun, ça n'aurait pas eu lieu non plus. Parce qu'en fait, c'est parce qu'ils ont eu un génie absolument extraordinaire qui s'appelait von Braun que ça a pu avoir lieu. Un génie monstrueux, parce que von Braun a eu une vie antérieure du temps du Troisième Reich qui était épouvantable. Un scientifique de génie, mais enfin qui a fait quand même des milliers et des milliers de morts dans le camp de Dora. Et disons que l'Amérique a su lui pardonner et lui-même a su, se refaire une nouvelle vie avec après 12 ans de purgatoire, durement vécu dans un camp dans l'Alabama, il a pu refaire redresser la tête à l'Amérique. Et donc on doit à von Braun, hein, vraiment, parce que l'espace, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien d'autre qu'un moyen de transport. On vous parle souvent des satellites, etc. Non, allons à l'essentiel. L'espace, c'est d'abord une fusée pour aller rejoindre ce milieu qui est dans le vide spatial, qui tourne autour de la Terre. Donc, sans fusée, il n'y a pas d'espace. Et donc, pour les fusées, il faut construire des moteurs fusées. Et pour construire des moteurs fusées, il faut des chambres de propulsion. Et dans la chambre de propulsion, l'élément le plus important, ce qu'on appelle la turbopompe, c'est celle qui va forcer à ultra haute vitesse tous les liquides vers l'arrière de la fusée, à travers l'espèce de cloche. Et ces liquides vont s'enflammer. Et ça va très, très vite pour éviter le retour de flamme qui fasse exploser les réservoirs. Donc, celui qui a mis au point la turbopompe, vraiment efficace au plan industriel, ça a été Goddard d'un côté qui les a testés, mais pas sur un plan industriel. Mais celui qui les a testés sur un plan industriel, qui a fabriqué une usine pour ça, c'est von Braun avec les techniciens. Et je veux dire que c'est la conquête de l'espace, on lui doit parce qu'il a fait le moteur fusée. Il n'y aurait pas eu le moteur fusée fiable, il n'y aurait pas de conquête spatiale.
Il l'a testé à la faveur, évidemment, d'une prospection militaire.
Bah oui, c'est le fameux V2 de sinistre mémoire qui tapait sur Londres avec une précision peu importe. Mais en fait, le V2 est le premier à être monté dans l'espace, puisque certains ont dépassé 100 km d'altitude et passé largement le Mach, puisqu'ils étaient à parfois Mach 6. Donc c'est vraiment des engins extrêmement avancés pour leur temps.
Goddard, un Français ?
Alors Goddard, non, c'est un Américain, malgré son nom, mais probablement d'origine française. Qui a testé, a fabriqué des fusées avec un peu d'argent à l'époque de l'US Army, mais personne n'a cru à son invention, personne n'a cru non plus aux fusées. Et au moment où la guerre est arrivée, finalement, il n'avait pas le soutien de l'armée, alors que von Braun, de son côté, avait le soutien d'Hitler. Donc la différence s'est faite très vite, c'est que d'un côté, vous aviez des Allemands qui avaient un énorme soutien financier, qui pouvaient construire la base de Peenemünde dans le nord de l'Allemagne, et de l'autre côté, vous avez Goddard qui était tout seul, qui testait des fusées qui marchaient, mais il était tout seul. Et l'Amérique a su lui rendre hommage, un hommage posthume. Mais c'était un peu dommage, parce que l'Amérique est passée à côté, en fait, d'un génie, lui aussi, très méconnu de son temps.
Olivier de Coursac, comment en est-on venu à concevoir des fusées ? Je dirais même simplement l'idée de la fusée par rapport à l'hélice.
C'est un russe, Tchaïkovski, qui a théorisé l'idée qu'on pouvait fabriquer des engins capables de se mouvoir, s'arracher de la surface terrestre et se mouvoir dans l'espace. Mais lui, il n'avait pas vraiment le moteur. Il n'y avait pas à l'époque, c'était au début du XXe siècle, il n'y avait pas on avait la théorie, mais on n'avait pas la pratique. Et c'est parce qu'il y a eu des nouveaux matériaux élaborés entre les deux guerres, entre la guerre de 14 et la guerre de 40, qu'on a pu commencer à faire des équipements capables de résister aux fortes pressions et aux fortes chaleurs. Et ça, c'est vrai que les Allemands étaient maîtres dans l'art du métal, des techniques de forgeage, dans les techniques d'assemblage. En fait, ce sont des ingénieurs, de toute façon. Et ils ont réussi à mettre au point le système de lancement.
Alors, ce savoir-faire, celui de von Braun, les Américains le récupèrent.
Oui.
Et ils vont le théoriser pour que celui-ci puisse s'adapter à la conquête spatiale. Quel est le saut qui a pu être fait à ce moment-là?
Le saut, en fait, il n'a pas eu lieu parce que quand les Américains ont récupéré Von Braun, ils l'ont mis dans l'Alabama. La moitié du haut commandement américain refusait de lui parler parce que Von Braun était quand même... aurait pu faire partir des criminels, hein, quand même. Même si lui-même n'a pas effectué de pendaison, n'a pas, etc. Son passé était quand même celui d'un haut commandant du camp de Peenemünde, à côté du camp de concentration, l'un des plus horribles qui existait, qui était le camp de Dora. Et donc, la moitié
tunnel-usine.
Le tunnel-usine. D'ailleurs, Von Braun avait lui-même rang de colonel de la SS, donc ce n'est pas quand même... Bon, très recommandable. Et il faut bien reconnaître. Et donc, il avait... il a été ostracisé avec ses coéquipiers allemands pendant une dizaine d'années. Et comme le mauvais élève au fond de la classe, il disait « moi je sais faire » parce qu'en fait, pendant ce temps-là, l'armée américaine, la Navy testait des fusées qui brûlaient au décollage, explosaient, et tout ça en direct, parce que l'Amérique a toujours au moins eu le courage de montrer au peuple américain ce qu'on faisait de ses dollars. Et bien, les essais avaient lieu en direct, et même s'ils se couvraient de ridicule, ils avaient lieu en direct. Et puis un jour, ils ont fini, Von Braun a dit « mais moi je sais faire les lanceurs, je sais faire les fusées, la preuve », et il a lancé le premier satellite en orbite, qui était Explorer 1, qui était un espèce de mini pamplemousse, plus petit que Sputnik, mais c'est Von Braun qui l'a fait avec son lanceur. Et l'Amérique s'est rendu compte, enfin, en tout cas, le gouvernement américain s'est rendu compte que ce fameux génie, il savait faire des fusées, que même 12 ans après, ça continue à bien marcher et qu'il fallait lui confier des équipes. Et brutalement, l'équipe d'Huntsville est devenue l'équipe leader dans le développement des fusées et on lui a confié la mise en œuvre de lanceurs beaucoup plus importants. Et ça a marché parce qu'effectivement, c'est lui qui a aidé à mettre en les premiers Américains en orbite, qui a su faire transformer des lanceurs ICBM, c'est-à-dire des lanceurs missiles longue portée en lanceurs fiables pour l'homme. Donc il avait un CV extraordinaire côté fusée.
Et sa contribution à la conquête de la Lune?
Sa contribution, ça a été de fabriquer, de concevoir les fusées capables de mettre l'homme sur la Lune. Parce que le module lunaire lui-même, la cabine Apollo elle-même, a été fabriquée par des industriels américains. C'est Rockwell qui fabriquait la cabine Apollo et c'est Grumman qui fabriquait le LEM. Donc on leur passait des contrats. C'est pas lui qui a, c'est pas Von Braun du tout qui a inventé ces engins qui allaient vers la Lune. Mais par contre, c'est lui qui a été dans le haut commandement de la NASA, parce que du coup, là, il est reconnu, il est rentré à la NASA. On l'a donné le plus haut poste, qui était celui des directeurs des lanceurs. Et donc c'est lui qui a mis en place toute la politique de grosses fusées de la NASA en place et qui permettait à la NASA justement de réaliser le vol lunaire. Donc c'est un type assez extraordinaire. Il aura vécu finalement une vie passionnante parce que même jeune, avant de créer les V2, c'était un passionné. Il faisait ses tests de fusées avec des jeunes à Berlin. Bon, finalement, il a cette période sombre des V2, mais enfin quand même, c'est grâce à lui qu'on doit le moteur fusée. Ensuite, il a eu cette période américaine extraordinaire où il a développé ses fusées Saturne, dont la fusée Saturne géante, Saturne 5. Et puis il est mort finalement ayant vu son rêve accompli. C'est-à-dire la plus grosse fusée emmenant des hommes sur la Lune. Il est mort après et le monde lui doit en fait les fusées d'aujourd'hui.
Est-ce que ce succès a fait en sorte que sa réputation a été rachetée outre-Atlantique?
Ah oui, complètement, parce que c'était un homme en fait, on s'est aperçu finalement très humain. Il a su très vite faire absoudre ses péchés de jeunesse, on va dire, qui étaient faits dans l'enthousiasme de la jeunesse. Il s'en rendait pas compte, il était jeune aussi à l'époque. Il a bien compensé, si vous voulez, ça par c'était quelqu'un de très d'extrêmement généreux. Je pense qu'il a réalisé, c'est que les gens changent, faut jamais croire que les gens restent les mêmes. Les gens changent beaucoup, et il avait beaucoup changé. En fait, le fait d'avoir été un espèce de purgatoire, d'avoir été relégué au banc comme ça, ça l'a beaucoup fait mûrir, il a beaucoup changé, il était devenu quelqu'un d'extrêmement humain, très à l'écoute, essayant d'améliorer la situation des gens en difficulté, etc. Donc ça a été quelqu'un de, non seulement un ingénieur remarquable, mais quelqu'un qui a su se racheter lors d'une deuxième vie vraiment.
Alors Olivier de Coursac, vous signez un ouvrage absolument remarquable, magnifiquement illustré, ce sont des photos inédites que l'on n'a jamais vues, prise de la Lune avec un 2 en double sens, c'est la Lune en tant que telle et puis elles ont été prises sur la Lune aussi par ceux qui ont eu la chance d'y aller. 12 hommes sont allés sur la Lune en tout, c'est ça?
Voilà, alors 12 hommes ont marché sur la Lune. Alors on retient en ce moment surtout beaucoup cette année le premier pas de l'homme sur la Lune, hein, le pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, mais en fait il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu 10 autres hommes qui ont marché sur la Lune et des missions encore plus passionnantes. En fait, Le premier pas de l'homme sur la Lune, c'est une mission qui dure, où les astronautes marchent, disons, un peu moins de 2h30. C'est très, très court. C'est une mission Apollo 11, c'est la mission du pari gagné. Pour Kennedy, il s'agissait de démontrer qu'on pouvait poser le pied sur la Lune et ramener, enfin, donc, emmener les astronautes sur la Lune et les ramener sains et saufs sur Terre. Et c'est les ramener, les sains et saufs sur Terre, qu'on oublie toujours. C'est pas que le premier pas, c'est qu'il faut les ramener sur Terre. Et donc, pour les ramener sur Terre, il fallait faire une mission la plus courte possible pour éviter que tout incident puisse venir ternir cette victoire. Donc, qu'est-ce qu'on leur a fait faire à ces astronautes, cette première mission? On les fait poser effectivement le pied sur la Lune, vite prendre quelques photos et vite ramener quelques pierres lunaires. On remonte dans le LEM, on se repose un peu et on décolle. Et là, on rejoint le coéquipier Aldrin, dont on ne parle pas souvent, mais Aldrin, qui, dans cette mission Apollo 11, avait fait le deuil de marcher sur la Lune. Et c'est l'homme de la réussite de la deuxième partie du pari. Donc, c'est l'homme de la réussite de les ramener sains et saufs sur Terre, parce que c'est lui qui tournait tout seul dans sa cabine Apollo, et qui était la garantie que ces hommes reviendraient sur Terre vivants.
On ne peut pas procéder à un lancement de nouveau. On ne quitte pas la Lune de la même façon qu'on quitte la Terre.
Et non, vous avez raison. Alors en fait, on décolle le LEM, le module lunaire est un module en deux parties. Il y en a un étage de descente qui va poser le tout sur la Lune, et puis un étage de remontée qui va se servir de l'étage de descente comme plateforme de décollage. Et c'est cet étage de remontée qui passe en orbite autour de la Lune, qui rejoint Collins dans sa cabine Apollo. Le tout s'arrime de nouveau. On transfère, Armstrong et Aldrin se retransfèrent dans la cabine Apollo. On lâche l'étage supérieur du LEM qui va s'écraser sur la Lune. Et puis, Collins allume le gros moteur qui va leur faire quitter l'orbite lunaire et qui vont foncer vers la Terre.
En combien de temps?
Ils vont mettre 3 jours pour revenir. Et en plus, Collins fait les corrections de trajectoire parce que finalement, le retour est très périlleux. Il faut qu'il vise un petit couloir dans l'atmosphère terrestre qui fait 40 km de large. Alors, s'il passe au-dessus, avec la vitesse de la capsule, ils vont en fait ricocher sur l'atmosphère terrestre et se perdre dans l'espace. Et si ils passent en dessous, la chaleur du frottement va être trop intense et ils vont brûler littéralement dans l'atmosphère.
Donc c'est un couloir qui permet de retrouver la Terre.
C'est un couloir très fin qui permet à la capsule Apollo de prendre le bon angle avec son bouclier thermique pour freiner juste ce qu'il faut, pas trop, mais suffisamment pour plonger dans l'atmosphère sans trop griller,
sans
devenir une météorite. Voilà.
Ça a dû être une grande frayeur pour ceux qui se sont trouvés à bord de savoir s'ils étaient dans ces 40 km, parce que c'est extrêmement étroit.
C'est très
étroit. Un couloir aérien, c'est 20 km.
Ouais, c'est ça. C'est comme un couloir aérien, c'est un peu ça. Et ils n'avaient pas une grande frayeur, mais enfin, en tout cas, Collins a su faire les bonnes corrections. Puis ils observaient les étoiles, ils avaient une navigation avec des ordinateurs quand même. Ils avaient un contrôle de sol de Houston qui triangulait sans arrêt leur position et ils savaient où ils étaient. Parce que la conquête de la Lune, et là, les Russes ont été battus complètement à plat couture, c'est la victoire de l'informatique. Les puces Intel ont été créées pour ça. C'était peut-être pas très performante à l'époque, mais enfin, je veux dire, les premiers ordinateurs qui aujourd'hui nous feraient sourire, parce qu'ils avaient pas beaucoup de capacité, datent de la conquête de la Lune. Et surtout, il y avait beaucoup de télécommunications en temps réel. C'est-à-dire que la victoire de l'Amérique, c'est que toutes les données, il y avait des capteurs partout, dans le module lunaire, dans la cabine Apollo, qui renseignaient en temps réel l'état, la santé du matériel en temps réel. Et ça, les Russes étaient incapables de faire ça, si vous voulez. Et donc, il y avait des paramètres dans tous les sens, et on savait, les astronautes, en fait, savaient dans leur dos s'il y avait un réservoir à l'oxygène qui marchait, qui ne marchait pas, si l'eau tournait bien, était bien recyclée. Et en fait, ça permettait tout de suite de pallier les pannes.
Est-ce qu'il y avait des points communs avec le fonctionnement de l'aviation d'un avion classique?
Oui, c'était des pilotes d'essai, en fait. Donc, même si l'engin n'avait pas d'ailes, il y avait des commandes de vol, si on peut dire. Bon, mais là, ça devait...
Donc, ils n'étaient pas trop dépaysés, quand même?
Ils étaient... c'est le milieu spatial, donc c'est quand même différent d'un milieu aérien. C'est un milieu où vous êtes dans le vide de l'espace. On ne peut pas voler comme dans Star Wars, vous savez, les vaisseaux qui font comme ça, qui bougent comme ça dans l'espace. Non. Dans l'espace, vous donnez une impulsion, vous allez tout droit dans le sens contraire de l'impulsion que vous avez donnée. Et donc, si vous voulez tourner à gauche, il faut donner une impulsion de votre moteur côté droit. Et là, ça va vous faire une poussée vers la gauche et vous tournerez un peu vers la gauche, vous voyez.
Les premières photos sont prises à ce moment, ce 21 juillet 69.
Oui, alors dans l'ouvrage Lune, effectivement, que vous citiez chez Talandier, qui est un ouvrage qui est fait qui est 25 ans de travail fait avec la NASA, c'est des mosaïques de photos qui ont été reprises parce que les astronautes ont fait ce qu'ils ont pu faire. Alors Armstrong et Aldrin n'ont pas fait de photos géniales, ils n'avaient pas beaucoup de temps, ils restaient très peu de temps sur la Lune, comme on le disait. Par contre, les missions suivantes sont restées plus longtemps. Dès Apollo 12, déjà, ils passaient une nuit sur la Lune et ils réattaquaient le lendemain à la surface. Ils faisaient 2 sorties extravéhiculaires et ils avaient le temps de faire davantage de photos. Et donc, ce que je me suis attaché à faire, c'est prendre toutes ces photos en vrac, les retrier. Elles étaient triées par film quand même, mais les remettre dans le bon ordre quand même. et les mosaïquer, c'est-à-dire les assembler entre elles, corriger leurs défauts complètement, enlever les rayures des développements, corriger les couleurs quand les couleurs avaient été mal développées, nettoyer tout ça, enlever les petites croix de repérage, qui sont les petites croix que tout le monde connaît sur les photos clichés Apollo, et puis mosaïquer tout ça, c'est en faire des beaux panoramas pour qu'on se rende compte de ce que l'astronaute voyait derrière son casque. Tout le monde se souvient de quelques clichés maintenant un peu jaunis parus à l'époque dans Paris Match. Maintenant, ces clichés ont maintenant, une fois nettoyés, vous avez l'impression qu'ils ont été pris hier avec une caméra CCD que vous achetez dans un grand magasin. Donc en fait, c'est ça, c'est, vous voyez vraiment ce que l'astronaute voyait derrière son casque. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la Lune avec sa poussière, on voit la Lune avec ses cailloux, on voit ses cratères. Et c'est un milieu très intéressant, c'est, les paysages sont superbes. Très désolé parce qu'il y a un ciel tout noir au-dessus, il n'y a pas d'air, mais par contre c'est très très beau.
Et comment se fait-il que ces photos n'aient jamais été publiées auparavant ?
Ben parce que la NASA n'a publié tout de suite au retour des missions que ils ont pris tout de suite, ils ont pris les pellicules, ils ont développé, puis ils ont regardé, hop, les photos où les astronautes étaient, on les voyait pas trop coupés, ou on les voyait à peu près bien, on pouvait se rendre compte de ce qu'ils faisaient. Donc finalement, sur par exemple 600 photos, peut-être que la NASA en publiait 2-3 par mission, 4-5 par mission, celles qui tout de suite spontanément lui paraissaient bien pour la presse. Et puis toutes les autres ont été mises au placard, mais pas jetées. Hein.
Mais personne n'a eu l'idée d'en faire un livre.
Ben, personne n'a eu l'idée, en tout cas, de les retraiter comme ça d'en faire des panoramas. Le livre est venu après, parce que le boulot est d'abord a été fait pour aider la NASA à vendre son programme Constellation, qui est le programme du retour vers la Lune. Parce que l'administrateur souhaitait avoir des images évocatrices de ce qu'était la Lune. Et donc, quand j'ai sorti 2-3 panoramas que j'ai montrés au headquarters à Washington, ils ont été assez emballés, et l'administrateur de la NASA a demandé à ce que je fasse, je continue mon travail, mais avec des thèmes, c'est-à-dire des thèmes cratères, thèmes pierres, des thèmes canyons, des thèmes montagnes. Et ensuite, il est parti, il a fait le tour des États-Unis dans tous les grands musées scientifiques des grands États. Et il montrait ces fameuses images, ces panoramas que je produisais, commentés par les astronautes. Alors, il y a eu Alan Bean, il y a eu Aldrin, il y a eu Gene Cernan, il y a eu Dave Scott. Ils ont tous commenté mes panoramas aux États-Unis. Puis finalement, on s'est dit, c'est un peu bête, il faut en faire un bouquin. Un bouquin à but éducatif. Donc, on a essayé de serrer tout ce qu'on pouvait dans les prix. Et le but, c'était de montrer, accessible enfin au grand public, une espèce de mémorial, de mémoire de ce qu'était la Lune.
Et encore, vous n'avez publié que 60% des clichés dont vous disposiez.
Ouais, donc ça permettrait d'en faire un second. On a de quoi en faire un second. En fait, j'ai laissé aux maquettistes une partie du choix de qu'est-ce qu'ils ressentaient le plus. Parce qu'on n'est jamais. Moi, je ne suis pas mon propre juge. Ce que je voulais, c'est que ça plaise vraiment aussi au public, que le public s'y retrouve. Alors, il y a quelques images que j'ai imposées parce que c'est des images emblématiques et iconiques. Ou, si vous voulez, on ne peut pas ne pas montrer Aldrin sur la Lune, par exemple. Mais Aldrin retraité d'une nouvelle manière, telle que les gens ne l'ont jamais vu. On voit des images d'Apollo qui croient avoir vu, ils vont reconnaître, en fait. Quand ils vont ouvrir le bouquin, ils vont dire « Ah ben tiens, celle-là, ça me dit quelque chose. » Mais il va la voir dans le cadre d'un truc plus vaste. Il dit « Ah ben tiens, il y avait tout ça autour. » Il va dire « Ah ben oui, tiens, je le voyais en train de faire ça, mais en fait, il est près d'un cratère, il y a la Jeep qui est pas loin, la Jeep lunaire est pas loin, il y a derrière, dans le fond, un peu plus loin, il y a le LEM. » Donc on va se rendre compte qu'il y a tout un environnement autour. Et un univers finalement en couleur assez grise, dont les seules taches de couleur sont ce que vous amenez depuis la Terre.
Alors justement, la Terre, est-ce qu'on la voit bien de la Lune ?
Oui, alors il y a une très bonne anecdote que je vous livre, qui est celle de Gene Cernan, dont Gene Cernan, qui est le dernier commandant de bord Apollo 17. Et à un moment, donc, ils descendent du LEM, c'est sa première sortie, le premier jour. Ils descendent du LEM et ils commencent à assembler cette Jeep lunaire avec Jack Schmitt, qui est le géologue de la mission. Bon, il voit Jack Schmitt qui s'extasie devant chaque éboulis, chaque morceau de caillou. Puis lui, il regarde la Terre qui est dans le ciel. Et en plus, pour Apollo 17, la mission s'était posée assez vers l'est de la Lune, du disque lunaire, de la face visible. Et donc, la Terre était finalement assez basse près de l'horizon. 40 degrés, donc on n'avait pas besoin de beaucoup lever la tête pour la voir. Et puis, il voit cette énorme boule bleue parce qu'elle est très spectaculaire vue de la Lune. Vous voyez quelle taille a la Lune vue depuis la Terre. Bah, la Terre vue de la Lune, elle est 4 fois plus grosse. Et il voit cette belle boule bleue, il s'extasie et il dit « Ah !» Il dit « Jack, ah, mais regarde la Terre comme elle est belle !» Et Jack, qui dans ses logiques de cailloux ou d'éboulis, répond « Écoute, quand t'as vu une Terre, tu les as toutes vues. » et en fait, Gene Cernan, quand Gene est revenu sur Terre, il s'exprimait un peu là-dessus. Il a dit « Mais oui, parce que moi, quand j'ai vu cette Terre, d'abord, elle était très belle. J'ai dit « C'est mon berceau, c'est là où on doit retourner. » Puis en plus, j'ai réalisé que là où on était, j'avais fait que le tiers de ma mission. Parce que finalement, je suis sur la Lune, en train de marcher sur la Lune, il disait. Je vois cette Terre et pour revenir vers cette petite boule bleue, j'ai tellement de choses à faire que finalement, est-ce que je vais y arriver ? Alors, qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, il faut qu'on reprenne la Jeep. Il faut qu'elle marche, parce qu'on est à quelques kilomètres quand même. Donc il faut que ça, la Jeep, elle refonctionne. Il faut que, ensuite, la mission se déroule bien. Il faut qu'on ait le temps de remonter les échantillons à bord. Il faut qu'on ait le temps de fermer tout, de reconfigurer l'aime pour le lancement. Il faut que le moteur marche au décollage. Bon, une fois qu'on a décollé, il faut qu'on passe bien en orbite, que ça se passe bien. Il faut qu'on rejoigne Evans, qui lui est en train de tourner tout seul dans sa cabine Apollo. Il faut que l'accostage se passe bien. Si ça se passe mal, ben il faut qu'on sorte dans l'espace par les portes, qu'on se rejoigne. Enfin, ça va pas être facile. Mais enfin, en tout cas, il faut qu'on arrive à se rejoindre. Il faut qu'on largue bien le LEM. Il faut qu'on rallume le gros moteur pour s'injecter vers la Terre. Il faut qu'on vise ce fameux couloir de 40 km. Il faut que les parachutes s'ouvrent. Et puis, il faut que l'impact sur l'océan soit pas trop moche et qu'on arrive à s'en sortir vivant. Bah, pour rejoindre cette petite boule bleue que je vois là au-dessus de la Terre, j'en suis qu'au tiers de mon voyage finalement.
Quantité de paramètres, il n'y a pas eu d'imprévu.
Il n'y a pas eu vraiment d'imprévu, il y en a eu quand même, mais bon là, par exemple, Dave Scott, qui était on dit que la plus belle de toutes les missions Apollo sur la Lune, c'est Apollo 15, de loin. Parce que d'abord, ils avaient le plus beau site, ils avaient le canyon d'un côté, les montagnes de l'autre, des montagnes qui dominaient de 4000 mètres d'altitude le site, donc des montagnes très spectaculaires. C'est la première utilisation de la Jeep lunaire. Et c'est là qu'il y a eu la fameuse découverte de la pierre la plus emblématique, qui est Genesis Rock, la roche de la Genèse. Dave Scott, qu'on débriefe souvent, dit lui-même, mais vous savez, j'avais pas beaucoup de temps, parce que quand je demandais à Dave, mais enfin, pourquoi vous n'êtes pas fait des photos dans le LEM entre vous, vous auriez pu, dit, mais on était... Écoute Olivier, on était épuisés, quoi, tu te rends pas compte. 8 heures dans une combinaison spatiale, sans pouvoir se gratter le nez quand on a envie de se gratter le nez. Alors, ils avaient une pipette pour boire un peu d'eau, mais il faut imaginer que ils marinaient dedans pendant 8 heures, ils n'en pouvaient plus. Ils ne pouvaient pas vraiment ils pouvaient s'asseoir que dans la Jeep, bouger sans arrêt dans une combinaison spatiale, à taper des cailloux, à monter des montagnes, parce que c'était épuisant. Quand vous montez sur la Lune des grosses pentes, le sol finit par se dérober sous vos pieds, vous glissez. Chaque geste finit par être épuisé parce que vous devez sans arrêt vous contrôler par faible gravité. Vous pesez un sixième de votre poids. Donc, tous les gestes que vous faites, si vous les faites à la manière terrestre, vous êtes emporté par votre élan et vous devez compenser instantanément, vous arrêtez.
Comme les Dupont que l'on voit décoller dans « On a marché sur la Lune ».
Comme les Dupont, et musculairement parlant, les efforts pour vous arrêter sont très très durs. Et à la fin de la journée, vous êtes claqué. Vous avez des douleurs musculaires partout. Vous avez mal au coude, mal au genou, vous n'en pouvez plus les hanches, votre dos, vous le sentez plus. Et le bonheur qu'ils avaient dans l'EM, c'est qu'enfin ils pouvaient se déshabiller. Enlever cette fichue combinaison lunaire qui leur sciait dans le col en métal, c'est des anneaux métalliques pour l'étanchéité, leur sciait complètement la nuque. Enfin, ils pouvaient se débarrasser de tout ça. Et c'était le bonheur. Et c'est tout était très minuté finalement, mais la NASA avait, enfin, le contrôle du sol leur laissait quand même suffisamment de latitude pour pouvoir se retourner au cas où il y avait un incident qui se passait. Ils avaient quand même des réserves en plus, ils avaient de quoi quand même pallier un incident.
Mais est-ce qu'il y a eu un incident justement au cours de ces missions qui se sont échelonnées de 69 à 72 ?
72, oui. Alors il y a eu quelques incidents. Il y a eu des atterrissages qui ont été pas faciles. Apollo 14 a eu un atterrissage très proche de la catastrophe. Et ça, c'est heureusement, ils ont eu toutes les pannes pour l'atterrissage. Ils n'ont eu pas d'ordinateur, pas de radar. Et ils se sont posés complètement manuellement, sans visuel radar, quasiment. Et d'ailleurs, Mitchell a demandé à Shepard, mais enfin, est-ce que tu l'aurais quand même fait, même sans radar, parce qu'à la fin, ça finit par remarcher in extremis. Et il a dit oui, mais pour moi, c'est moins compliqué me poser sur la Lune que me poser par forte tempête de nuit sur un porte-avions. Il savait que si la moindre bêtise, il pouvait mourir. Il y a eu des imprévus. Apollo 14, par exemple, justement, a loupé l'aspect scientifique de sa mission complètement. Ils ont loupé le site d'atterrissage. C'est-à-dire qu'ils sont posés au bon endroit, mais ils n'ont pas atteint leur objectif après qu'ils devaient faire leur deuxième marche, leur deuxième sortie extravéhiculaire. Ils se sont plantés, ils se sont perdus sur la Lune complètement. Ils n'ont pas atteint leur objectif. Ils sont rentrés dans l'EM, mais n'ayant pas vu ce qu'ils devaient voir.
Des cartes de la Lune pour se déplacer.
Ouais, ils avaient des cartes, un peu comme parce que Apollo, ce n'est pas que l'envoi d'hommes sur la Lune. Apollo, c'est un ensemble dans lequel on fait d'abord voler des gens à deux dans des cabines Gemini pour tester le matériel Apollo. On le teste d'abord dans des cabines à deux qu'on appelait les capsules Gemini. Et puis on envoie des sondes sur la Lune et tourner autour de la Lune pour la cartographier parce qu'il n'était pas question qu'on fasse poser les astronautes dans des endroits qu'ils ne connaissaient pas. En fait, on a d'abord été cartographier la Lune avec des sondes Lunar Orbiter qui ont fait des cartes à assez haute résolution puisqu'on avait une résolution de 30 à 40 cm. Il n'y a pas de pixels à l'époque, on va dire des résolutions sur des films. Et puis, on a fait poser des sondes surveillores sur la Lune juste pour tester si la Lune, la surface était bien solide, elle pouvait supporter le poids d'une sonde, donc a fortiori le poids d'un module lunaire, et puis si on pouvait gratter le sol et commencer à l'analyser. Donc on a fait toute une batterie de robots, avant d'envoyer des hommes, pour tester un peu les choses. C'est ça la préparation américaine. Vous savez, le débarquement, il faut se souvenir comment le débarquement s'est monté. Le débarquement en Normandie, quand même, de nuit, Les Américains avaient envoyé de nuit des commandos gratter le sol des plages d'Omaha, d'Utah Beach, à la barbe des Allemands, pour voir de quelle nature était fait le sable, comment était fait le terrain, etc. Est-ce qu'un char pourrait rouler dessus ? On refaisait du sable à l'identique en Grande-Bretagne et on regardait quels étaient les engins capables de résister et de faire des... Et de ne pas s'enliser. Et ben, pour la Lune, c'est la même chose. Et ben, on développe des robots, des choses, on y va étape par étape. Et quand une étape A est gagnée, on passe à l'étape B, voyez.
Extrêmement organisé, ça c'est la puissance logistique américaine.
Ah bah oui, ils sont perdants au début, un peu comme Pearl Harbor, ils sont rétamés par les Japonais, et puis finalement ça se met en place et on finit par gagner la guerre. Bah c'est pareil, ils sont rétamés par les Russes qui lancent d'abord Sputnik, ensuite les Russes font une deuxième victoire en lançant Gagarine, mais très vite les Américains vont prendre le dessus. Et en fait les Russes ont rien compris au film. Il y a eu des missions Gemini les Américains ont testé les premiers accostages de vaisseaux dans l'espace, où deux vaisseaux se sont fait des rendez-vous dans l'espace, qui était une grande première spatiale. Et c'était grâce à l'électronique, parce qu'ils pouvaient se suivre, et les communications, à des centaines de kilomètres de distance, sans se voir dans l'espace, en orbite autour de la Terre, ils pouvaient se suivre et se rapprocher des petits coups d'impulsion de menteur, et pile poil, ils pouvaient littéralement se rapprocher jusqu'à se toucher. Et ça, c'est génial, et ça, les Russes, sans électronique, auraient été incapables de le faire. Ont eu beaucoup de mal, ils le faisaient en visuel, ils essayaient de bidouiller. Mais finalement, la grande victoire, c'est ça, c'est la victoire d'une très forte logistique.
Pourtant, ce ne sont pas les Russes qui ont pris les premières photos de la Lune ?
Oui, mais ils ont vu une sonde qui est passée à côté et une sonde qui a tourné autour. Mais les photos n'étaient vraiment, pour le coup, d'une résolution d'une centaine de mètres, quoi. Donc, ça permettait de voir la face cachée, mais sans plus. On voyait qu'il y avait des mers, il n'y avait pas de mer vraiment sur la face cachée. Mais la vraie cartographie lunaire, la vraie de vraie, celle qui permettait de poser des hommes sur la Lune, c'est quand même les Américains qui l'ont faite avec Lunar Orbiter.
La face cachée, on la connaît précisément ?
Alors, elle est bien cartographiée aujourd'hui, hein, puisque effectivement, Lunar Orbiter a fait son travail. Mais maintenant, on envoie une nouvelle sonde qui s'appelle Lunar Reconnaissance Orbiter, qui est une sonde très perfectionnée, dont les images sont entièrement digitales, donc facilement retraitables encore plus. On va envoyer en plus un altimètre laser qui va cartographier très très précisément la Lune pour avoir les creux et les bosses exactement là où il se trouve. On va sonder le sous-sol de la Lune un peu mieux que l'avait fait Apollo, parce qu'Apollo, ils avaient pu sonder une petite bande le long de l'équateur. Là, on va vraiment sonder la surface de la Lune. On va savoir s'il y a des minéraux où il se trouve.
Avec des robots.
Là, pour l'instant, on n'en voit que des robots. Et puis, dans une dizaine d'années, 10-12 ans, on remettra des hommes sur la Lune avec...
On pense y retourner.
Oui.
Et on sait comment y retourner, parce que ce n'est pas si évident que cela.
Ben oui, vous avez raison, c'est pas si évident que ça, parce qu'on a perdu les recettes, hein, puisqu'on ne sait plus refaire un module lunaire aujourd'hui. On ne sait plus le faire le même. Il faut réinventer tout, puisque quand vous prenez les anciens plans des modules lunaires, ils ont été faits à l'époque à la table à dessin et à la règle à calcul. Donc quand vous mettez un ingénieur devant, il ne sait plus former à la nouvelle méthode, c'est-à-dire la méthode de conception assistée par ordinateur, il ne sait plus le lire. Donc il faut tout recommencer de début. Alors on a la théorie, on sait se reposer sur la Lune en théorie, on sait faire les moteurs fusées, hein. L'espace, ce n'est pas tant du calcul, mais beaucoup d'ingénierie. Et dans l'ingénierie, il y a une part de savoir-faire. Et tout le savoir-faire des ingénieurs d'Apollo, ben, on l'a perdu, puisque maintenant ils sont à la retraite ou décédés. C'était les petites recettes dans les assemblages qui faisaient que ça marchait. La manière dont ça va être boulonné, la manière dont les câbles vont être connectés, qui va faire que ça marche. Et à tel point, c'est qu'il y a des lanceurs encore aujourd'hui, des fusées aujourd'hui, où les technologies évoluant, il y a des morceaux de ce lanceur qui ne servent plus à grand-chose. Il y a des boîtes, etc., qui dépassent, par exemple, de la fusée, qui sont maintenant vides, parce qu'il n'y a plus besoin de l'électronique qu'elle contenait. Et quand vous demandez à l'ingénieur, bon, on va retirer la boîte, elle ne sert plus à... Ah non, on n'y touche pas. Non, non. Parce qu'on sait que ça marche.
On sait que ça marche comme ça.
Ça marche comme ça. Et puis, il y a un flux de l'air autour. C'est maîtrisé. On ne va surtout pas l'enlever parce qu'on va faire une perturbation qu'on ne va pas comprendre. Et puis, peut-être que la fusée, on perdrait peut-être une fusée. Donc, plus personne ne touche aux vieilles recettes.
Donc, c'est très empirique, en fait.
C'est très empirique. L'espace reste empirique quand même. Ouais.
De combien de temps faudrait-il disposer pour vraiment que les conditions soient atteintes et qu'on retourne sur la Lune ?
Ben, on dit aujourd'hui, il faut 10 ans. Il faut 10 ans pour faire tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Amérique... refait une nouvelle capsule Apollo qui s'appelle Orion, qu'on appelle Apollo gonflé au stéroïde. Donc, c'est une énorme capsule qui va contenir entre 4 et 6 astronautes. Et puis, il y aura le nouveau module lunaire qu'on appelle Altair, qui lui va contenir entre 4 et 6 astronautes aussi et qui se posera sur la Lune vers 2020. Et donc, tout ça, c'est une grosse architecture lunaire plus importante qu'Apollo, puisque les masses sont très différentes. Hein. À l'aime d'Apollo pesait à peu près une dizaine, quinzaine de tonnes. Là, on parle de masses de 35 tonnes et 40 tonnes à poser sur la Lune. pour des durées de mission qui sont de l'ordre de 10 jours, 15 jours.
Donc alors, plus long, plus lourd.
Plus long, plus lourd, avec un sas de décontamination pour enlever la poussière, parce qu'Apollo, le grand problème, c'était la poussière lunaire. Il rentrait dans le LEM, si vous voulez, il déshabillait directement dans le LEM et il repressurisait la cabine. Et il vivait avec la poussière lunaire. Et la poussière lunaire, très vite, ils n'en pouvaient plus, quoi. Ça s'infiltrait partout, ça commençait même à menacer l'étanchéité de leur combinaison. Et à un moment, sur Apollo 12, une anecdote sur Apollo 12, à un moment, donc ils rentrent enfin ayant fait leur deuxième sortie, ils vont bientôt décoller, puis ils sont gênés par la poussière, il y en a partout, et ils n'arrivent pas à l'enlever. Ils se brossent, en fait, puis en fait, ils s'en met encore plus ailleurs. Et à un moment, Houston leur dit, mais alors à quoi ça ressemble votre vaisseau? Et ils disent, ça ressemble à une mine de charbon. Oui, mais enfin, comment une mine de charbon? Demande Houston. Écoute, une mine de charbon vraiment très noire et très très sale. Et quand ils sont remontés en orbite, Gordon, leur coéquipier, ils ont ouvert donc le tunnel qui séparait l'étage de remontée du module lunaire de la cabine Apollo. Et Gordon a vu ses copains flotter dans une espèce en apesanteur, donc en orbite autour de la Lune, ils flottaient dans l'espace. Et il voyait ses copains flotter dans une espèce de gros nuage de poussière grise. Et il a dit, oh, oulala, pas de poussière dans mon beau vaisseau tout propre. Parce que lui, il ne voulait pas qu'il y ait de poussière lunaire qui s'infile dans les circuits électroniques. Donc il a dit, messieurs, à poil, hein, parce qu'en fait c'est ça, vous enlevez tout ce que vous avez sur vous, gardez votre casque et vous passerez. Ils sont passés tout nus dans la cabine Apollo. Là, il leur a tendu les vêtements de vol et ils ont tout abandonné ils ont transféré leurs échantillons de roches lunaires qui, eux, étaient bien paquetés, donc la poussière risquait pas de passer. Mais ils ont laissé toutes les combinaisons, tout, absolument tout, dans un LEM qui était encrassé de poussière lunaire. On a vite fermé le sas et ils ont largué LEM en orbite. Et ils ont eu un vol de retour bien. Mais la poussière lunaire est un gros, 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 gros problème.
Olivier de Goursac, si on se met tout nu sur la Lune...
Sur la Lune, non, il faut être en combinaison spatiale, parce que d'abord, il n'y a pas d'air, on ne peut pas respirer. Vous êtes exposé au vide spatial, donc le soleil vous brûlerait la peau instantanément. Vous avez, les UV vous brûleraient. La Lune elle-même, le milieu est très hostile. Hein. Il n'y a pas d'atmosphère, donc d'un côté, quand c'est chauffé au soleil, il fait 250 degrés. Et puis après, c'est soumis au vide spatial, donc il fait moins 250, c'est un peu ça.
Alors, plus 250 et moins 250, comment conjuguer les deux?
On les conjugue. Le module lunaire, lui, se posait avec un soleil qui était proche de l'horizon. Donc, il y avait une partie du module lunaire qui était violemment illuminée par le soleil et l'autre partie qui était dans l'ombre. Et c'est donc 50-50, 50% au soleil, 50% dans l'ombre. Et on arrivait à gérer...
Chaque fois, il se posait comme ça, sur cette tranche.
Il se posait avec un soleil près de... Pas trop au-dessus de l'horizon. Enfin, les dernières missions, ils grimpaient à 30 degrés au-dessus de l'horizon quand même. Mais c'était encore gérable. Là, les prochains LEM, les modules lunaires qu'on composera, qui s'appelle Altaïr, ils s'opposeront plutôt près du pôle avec un soleil rasant aussi. S'ils se posent près de l'équateur, il faut en tenir compte. C'est-à-dire qu'il faut un système de refroidissement.
C'est-à-dire que le soleil est un ennemi.
Le soleil est un ennemi, ça cuit. Et la nuit est une ennemie aussi, puisque... Enfin, la nuit n'est pas plus une ennemie qu'une autre, parce que c'est comme un vaisseau dans l'espace. Il n'y a ni chaleur, ni froid, vous êtes à température ambiante. Donc la température ambiante dans l'espace, c'est que d'un côté vous êtes éclairé par le soleil qui fait très chaud, de l'autre côté vous êtes dans l'ombre, et donc vous avez la nuit éternelle, là il fait le plus froid.
Est-ce qu'on prend des photos sur la Lune comme n'importe où ailleurs? Est-ce que ça requiert un équipement particulier?
Alors sur la Lune, ils avaient des appareils, qui étaient un très bon appareil de studio, on va dire, c'est un Hasselblad 500, qui était un appareil 6-6, avec une très bonne pellicule faite par Kodak à l'époque, qui était un très bon Kodachrome pour la couleur, un Ektachrome pour le noir et blanc. Une excellente définition, un très bon piqué d'image, vraiment une optique extraordinaire. Donc les images, c'est ce qu'on voit dans l'ouvrage Lune, c'est effectivement que les photos étaient d'une qualité exceptionnelle. Parce que quand je les retraite bien, quand je fais tout mon boulot de nettoyage, on s'aperçoit que là, pour le coup, l'appareil photo était extraordinaire. Et c'était un très bon choix. En plus, c'était un des rares capables de fonctionner dans le vide spatial. Donc, sans rajouter de graisse supplémentaire, ils pouvaient le faire fonctionner aux conditions lunaires. Et ils avaient adapté les boutons de l'appareil aux gros gants des astronautes. Donc, il était facilement manipulable par les astronautes aussi. Il était suffisamment gros pour être... On pouvait le prendre avec des gros gants et faire des photos avec.
Il y a une rivalité entre fabricants d'appareils photo pour être celui qui prendra les photos de la Lune?
En fait, il n'y a pas eu de rivalité. La NASA a fait comme elle fait d'habitude. Elle achète dans le commerce des équipements.
Tout simplement.
Simplement, puis elle les teste. Voilà, puis ensuite elle dit, elle appelle le fabricant, elle dit c'est le vôtre qui a passé tous les tests. C'est ce qu'elle a fait pour la montre Omega, la fameuse Speedmaster, celle qui a sauvé Apollo 13, puisqu'ils avaient plus d'ordinateurs à bord, donc ils ont fait leurs calculs avec leur montre. Eh bien, ils ont acheté dans une boutique à Houston quelques montres. C'est la montre Omega, la Speedmaster, qui a passé tous les tests. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée au poignet des astronautes sur la Lune. Tous les matériaux nouveaux d'aujourd'hui viennent de la conquête de la Lune, vraiment. Ça va du téflon, de la bande Velcro, enfin tous. ça, c'est issu de la
conquête. À la bande Velcro également.
Ouais. Ah oui, vous serez surpris de savoir tout ce qui a été inventé pour la conquête de la Lune. En fait, dans le vaisseau Apollo lui-même, en 1972, la dernière mission Apollo, c'était déjà l'univers des années 80 pour nous. Parce que tout était déjà dedans, mais à titre expérimental. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on a eu, nous, 10 ans plus tard. Vous voyez, en 72, dernier vol, et à partir de 1980-1982, vos premiers PC sur votre bureau. Vous voyez, c'est ça. Donc, l'élan donné par Apollo a été tel que 10 ans après, vous l'avez retrouvé dans votre cuisine.
Il y a eu un autre décollage.
Il y a un autre décollage. Et là, les Russes ont été battus. Parce que les Russes n'ont pas du tout compris ça. L'économie libérale, enfin capitaliste, je préfère capitaliste que libéral, parce que libéral, ça veut dire n'importe quoi. Capitaliste, en tout cas, a fait que les progrès sont passés de la recherche immédiatement avec une application grand public. Avec des gens qui ont fait du capital risque et qui ont pris du risque pour industrialiser tout ça. Et si vous voulez, les Russes, eux, ont laissé complètement passer le film. Si vous voulez, dans les années 50, tout le monde avait ses mêmes meubles en bois blanc dans son salon, que ce soit du côté russe que du côté américain. Puis ensuite, on voit qu'après la conquête Apollo, les téléviseurs se réduisent de taille très vite côté occidental, qu'on a commencé à avoir de l'électronique, qu'on commence à avoir des gros baladeurs dans lesquels on met ses cassettes, etc. Et les Russes sont déjà perdants sur le plan de la consommation. Ils y arrivent plus. Et puis sur le plan de technologie, ils n'y arrivent plus non plus. Et puis ils ont été achevés par la guerre des étoiles de lancée par Ronald Reagan, ce qui prévoyait d'envoyer des canons laser pour tuer les satellites. Et là, ils ont été achevés parce que les Russes, Brejnev, avaient essayé de commencer à faire un peu décoller les biens de consommation en Russie. Et les Russes sous Brejnev n'étaient pas libres du tout, mais ils commençaient à avoir un petit peu une amélioration d'un peu de leur cadre de vie. Et puis la guerre des étoiles est arrivée et ils ont dû retransformer à l'envers leur industrie pour refaire du militaire. Et là, ils ont été achevés. Donc si vous voulez, Apollo, ça a été les prémices de la fin du communisme. Une économie, des gens qui prenaient du risque, qui y allaient, pouvaient transformer le monde littéralement avec des nouvelles technologies.
Il existe une controverse, qu'en pensez-vous ? L'homme ne serait jamais allé sur la Lune, ce serait en studio que les choses auraient été faites.
Ouais, bah écoutez...
Ça, c'est américain, ça ?
Ouais, c'est une controverse. Écoutez, pour moi, c'est à mettre dans le même rang que les révisionnistes. C'est du révisionnisme pur et dur. Soit ils le font par bêtise, soit par méchanceté. Alors, soit par bêtise, parce qu'ils sont très très bêtes, parce que je sais pas comment on peut faire un studio qui fait 8 à 10 km de large, parce que les astronautes, c'est ce qu'ils ont bougé sur la Lune, parce qu'on voit des changements de perspective. Dans les dernières missions, on voit les montagnes qui changent d'angle de vue, on voit le soleil qui grimpe sur l'horizon. On voit bien qu'il y a plein de photos ratées. Si elles avaient été faites en studio, elles auraient été toutes réussies. Or, il y a eu beaucoup de loupés dans les photos Apollo. Et j'en sais quelque chose que j'ai toutes vues. Et c'est d'ailleurs de ces fameux ratages que je trouve, moi, par contre, très réussis, certains, que je monte dans le bouquin Lune. Hein. Et puis, ou par méchanceté, c'est qu'ils ont envie de se faire de l'argent à bon compte avec la crédulité des gens. Alors, le drapeau qui flotte, il ne flotte pas, d'ailleurs. Hein. Il est tenu par une... Il fait semblant de flotter. D'ailleurs, quand on regarde bien sur la photo de couverture de Lune, on voit bien, hein, il est tenu par une barre métallique qui le tient horizontal. Alors, Apollo 12, ils ont cassé la barre métallique et ils pendouillent lamentablement parce que quand ils l'ont installé, quand Bean l'a installé, il n'a pas fait attention. Quand il a voulu l'emboîter, il l'a emboîté trop durement et ça a cassé la barre horizontale. Et après, il a pendouillé. Alors, il le tient. On voit qu'il le tient physiquement pour la photo. Donc il est à peu près d'un drapeau à peu près correct et puis ensuite il le laisse tomber. Alors ensuite l'espèce, vous savez, qui vole un peu au vent, c'est un effet qu'a choisi Aldrin et Armstrong parce que à l'origine le drapeau devait être tendu tout droit comme une feuille de papier. Donc aucune aspérité. Puis quand ils l'ont déplié, ils sont aperçus que l'aspect froissé était très sympa. Ça faisait vivre et ça cassait l'aspect high-tech de leur vol parce que les combinaisons blanches immaculées,
ils se sont aperçus.
Oui, même si les combinaisons allaient vite devenir grises de poussière, ils se sont aperçus que le lemme étincelant avec le millard doré, l'aspect high-tech, parce que c'est du high-tech quand même sur la Lune, le drapeau trop droit, ça allait pas. Et d'ailleurs, dans les maquettes qui étaient faites à l'époque en plastique, moi j'étais gosse, j'achetais les maquettes Revel en plastique du drapeau lunaire, on collait tout droit le drapeau lunaire sur un support pour qu'il fasse tout beau. Et ensuite, donc moi que j'ai acheté gosse avant le premier pas sur la Lune, le drapeau tel que la NASA voulait qu'il soit installé, c'est-à-dire un drapeau tout beau, tout droit, impeccable, et pas avec l'aspect froissé. Et ensuite, après l'émission, Revel, le fabricant de maquettes,
a changé.
Ils ont fait un truc à l'aspect froissé pour donner l'impression de ce que les astronautes installaient. Et puis Apollo 12, l'émission suivante à partir d'Apollo 12, ils se disent « Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut le faire, il faut froisser le drapeau. Il ne faut pas le laisser tout droit. » Et puis toutes les autres missions, on continue à le froisser.
Ces Américains pensent à tout.
Ce sont des gens qui avaient de grandes qualités, d'ingénieurs et de grandes qualités morales aussi. Hein. C'était des pilotes assez exceptionnels. Ils savaient qu'ils prenaient des risques... qu'aucun, on va dire, astronaute accepterait de prendre aujourd'hui, parce que les conditions de vol étaient très dures. Se poser sur la Lune et redécoller, quand même, marcher sur la Lune, c'est pas donné à n'importe qui. Les astronautes qui ont marché sur la Lune, même ceux qui ont tourné autour de la Lune, parce qu'il faut jamais les oublier, sont des héros quand même. Il faut pas oublier que c'est le voyage le plus lointain fait par l'homme. C'est extraordinaire. Et ça a changé leur vie, de voir la Terre dans l'espace comme ça. Ils sont tous devenus très croyants. Ils sont tous rentrés...
Ah oui, tous devenus très croyants.
Ah bah, ils étaient croyants au début, mais encore plus après. C'est-à-dire qu'ils ont été littéralement transformés de l'intérieur. D'abord de voir la Terre, ce petit nid tout douillet au milieu d'un cosmos infini. Ils ont vu qu'on n'était pas grand-chose. Ils se sont rendus compte de la beauté de la création. Parce que la Lune, même très austère, est très belle. Il y a des paysages, on reste absolument bouche bée. On dit, mais c'est des airs de poussière que l'homme n'a jamais foulé aux pieds. Il y a une image que je montre, que j'aime bien montrer dans l'ouvrage Lune. C'est une image où c'est le dernier pas, du dernier moment, du dernier instant, le plus loin possible. Donc c'est un endroit où ils ont été. Ils savent qu'ils vont rentrer dans le LEM et le LEM va redécoller pour la dernière fois et on ne posera plus jamais le pied sur la Lune. Et donc, c'est le dernier endroit le plus loin du LEM jamais atteint. Et derrière lui, ça restera un territoire vierge. Et c'est très, je trouve que c'est très poignant parce qu'on le voit, il a piétiné le sol à cet endroit-là, il a touché un caillou, il a pris un échantillon et il n'a pas le temps d'aller plus loin, d'escalader, d'aller plus loin. Il est obligé de rentrer. Il a Jeep en bas avec son. Il y a Jack Schmitt qui l'attend en cernant avec la Jeep en bas. Là, on va en contrebas tout petit parce qu'il est monté le plus haut possible qu'il pouvait dans le temps imparti. Quoi. Ramacher cette roche le plus haut sur la pente. Et il sait qu'il ne pourra pas monter plus haut. Il n'a plus le temps. Il faut qu'il rentre. Et donc, il attrape sa roche. Il en prend un échantillon et il prend un panorama quand même. Et c'est le dernier panorama le plus haut, le plus loin de là où il n'a jamais été. Puis il y a Jack Schmitt qui l'attend en contrebas. On voit une toute petite Jeep minuscule en bas de la pente avec Jack Schmitt qui s'affaire à mettre des outils à l'arrière de la Jeep. Et puis le LEM est presque invisible, c'est un tout petit point à 6 km de là, noyé parmi les montagnes de l'autre côté. Et il sait qu'il rentre, il décolle et c'est fini. Et l'homme plus jamais posera le pied sur la Lune, peut-être dans 40, 50 ans. Et en fait, si on pose le pied sur la Lune, ça sera 50 ans. On aura passé 50 ans. Parce qu'en fait, en ce moment, en 2009, le 40e anniversaire. Mais en fait, on reposera le pied sur la Lune peut-être pour le 50e anniversaire. Enfin, la NASA essaie de tenir, l'Amérique aimerait bien tenir le délai, 50 ans après, reposer le pied sur la Lune.
Olivier de Coursac, est-ce que la Lune appartient à quelqu'un? Parce qu'on a posé le drapeau sur la Lune, mais en soi, il n'y a pas de propriété, ce n'est pas une propriété américaine.
Alors non, alors le drapeau, c'est une vraie question, vous avez raison de la poser, parce que jusqu'au dernier moment, on a emballé deux drapeaux. Hein. Le premier drapeau était le drapeau de l'ONU, et le deuxième drapeau était le drapeau américain. Et puis c'est Nixon qui a fait le choix, final, du drapeau américain. Alors pourquoi il a fait le choix du drapeau américain? C'est pas par goriot personnel du tout, parce que jusqu'au bout, l'Amérique était prête à faire voler le drapeau de l'ONU sans arrière-pensée. Et en mettant, alors peut-être un petit drapeau américain dessous, mais enfin, faire voler le drapeau de l'ONU. Et puis, Nixon, qui était très près de ses sous, était en train de prendre des décisions qui n'étaient pas faciles, et en particulier des décisions budgétaires face à la guerre du Vietnam, où l'Amérique se faisait bien piler dans cette guerre qui était très compliquée. Et Nixon a dit, écoutez, c'est le contribuable américain qui a payé quand même tout. On va mettre le drapeau américain à la surface. Maintenant, on emmènera les drapeaux des autres nations. Donc, le drapeau français, le drapeau russe, même les Russes ont donné leur drapeau. Parce que l'Amérique a demandé quand même quels étaient les pays qui voulaient qu'il y ait leur drapeau installé sur la Lune. Et les Russes ont répondu bien sûr présent. Bien sûr pourquoi? Parce que finalement, quand on va à l'essentiel, même si d'un côté il y avait la guerre froide, les Russes contre le système occidental contre le système communiste, si on va à l'essentiel, on est quand même de civilisation européenne, on va dire.
Entre passionnés.
Qui plus est. Et donc, en fait, les Russes ont quand même montré les images Apollo à la télé. Une journée de retard, mais ils ont quand même montré au grand public. Et les Russes ont quand même dit chapeau. Ils ont eu quand même la grandeur de reconnaître l'exploit américain, qui les grandissait aussi, parce qu'ils avaient perdu la course. Mais enfin, les Russes, c'est un grand peuple, les Russes, quand même. Bon, donc, si vous voulez, ce sont des gens qui sont émotionnellement assez forts aussi. Et ils ont reconnu la victoire. Et puis, bah, il y avait leur drapeau sur la Lune, quand même s'il était dans un sachet.
Olivier de Coursac, vous êtes également un spécialiste de Mars. Est-ce oui. qu'aujourd'hui, la Lune n'est pas dépassée par une conquête future, celle de Mars?
Oui, alors vous avez raison, la Lune est dépassée par la conquête de Mars. Et si on y retourne, c'est pour tester les équipements qu'on mettra plus tard sur Mars. Hein. Parce que ce qu'aujourd'hui on veut faire, c'est on ne peut pas tester les équipements sur Mars pour faire une mission habitée. C'est trop loin. Mars, c'est 6 mois de voyage et 1 an et demi pour revenir. Un an et demi pour revenir, juste pour les auditeurs, c'est parce que Mars tourne plus loin du Soleil que la Terre, donc elle tourne plus lentement autour du Soleil. Ce qui veut dire que quand vous repartez de Mars, il faut rattraper la Terre qui tourne plus vite autour du Soleil que vous. Donc vous faites une fois et demi le tour du Soleil avant de la rattraper. Donc c'est pour ça que le voyage du retour est plus long. Bon, ceci entre parenthèses. Mettre des hommes sur Mars comme ça, on ne peut pas. La Mars Society américaine pense qu'on peut faire un voyage direct tester d'équipement. Mais ce qu'on sait, c'est que si les astronautes sont plantés par des engins qui ne fonctionnent pas, il n'y a pas moyen de se rattraper. Donc on se dit que si on veut tester du matériel, si on veut tester de l'équipement, c'est sur la Lune qu'on peut le faire. Pourquoi ? Parce que d'abord, la Lune n'est qu'à 3 jours de voyage. Quand vous êtes sur la Lune, dans une base lunaire, vous êtes moins isolé que dans l'Antarctique. L'Antarctique, il y a 5 mois par an, vous ne pouvez pas ravitailler les bases parce qu'elles ont un ravitaillable à cause du mauvais temps. Puis les glaces vous empêchent d'avoir accès à la côte. Et puis, c'est un milieu hostile. Donc si ça résiste à la Lune, avec la poussière lunaire, ça va résister à Mars et son horrible poussière aussi. Et puis la Lune est plus difficile, il n'y a pas d'atmosphère du tout. Mars, il y a un peu d'atmosphère. Donc si vous voulez, si on teste l'équipement, s'il passe le test lunaire, il passera le test martien. La seule différence, c'est sur Mars, il y a une atmosphère. Et donc la rentrée atmosphérique est compliquée comme sur la Terre pour Mars.
Avec ce fameux couloir des 40 km.
Voilà, sur Mars, c'est à peu près la même chose. Il faut un bouclier thermique pour freiner. Seulement, le bouclier thermique ne vous freinera pas assez sur Mars. Il faut terminer en rétrofusée parce qu'il n'y a pas assez d'atmosphère. Globalement, Mars, l'atmosphère qu'il y a sur Mars, c'est comme si vous respiriez sur la Terre à 35 km d'altitude. Donc 6 à 10 millibars, c'est pas grand-chose. Donc c'est suffisant quand même pour vous freiner dans la haute atmosphère, mais au plus fort du frottement qui sur Terre est vers 30 km d'altitude, là où la navette frotte le plus, là où elle est incandescente, où on la voit comme une étoile quand elle rentre pendant la nuit, on la voit à un point très brillant, le frottement le plus fort, c'est vers 25-35 km d'altitude. Et sur Mars, manque de chance, c'est la pression que vous avez à la surface. Donc vous commencez à freiner beaucoup mais pas assez, et donc vous êtes obligé d'ouvrir un parachute et terminer en rétrofusée. Alors par contre la Lune, vous n'avez pas besoin de parachute, vous êtes carrément rétrofusée.
Hormis le défi que représentent toutes ces conquêtes, est-ce qu'il y a un intérêt scientifique à être allé sur la Lune? Est-ce qu'on a rapporté les choses vraiment insolites? Est-ce qu'on vise aussi des choses insolites, des choses qui nous feraient avancer de manière décisive?
Écoutez, on a compris d'abord de quoi la Lune était faite et comment elle est née. C'est un grand mystère. Et du coup, on a compris un peu mieux comment naissaient les planètes. On a compris qu'on ne pouvait pas dériver de la naissance de la Lune la naissance d'autres planètes, parce que la Lune est un acte absolument improbable. C'est un corps de la taille de Mars qui a frappé tangentiellement la Terre et a mis, pour simplifier, un morceau de la croûte terrestre en orbite autour de la Terre. Et ce morceau de la croûte terrestre était pulvérisé et s'est rassemblé, tous les morceaux sont rassemblés entre eux et pour donner la Lune. Et cet acte improbable d'ailleurs fait que la vie sur Terre a bien évolué, parce que du coup la Terre a eu son axe de rotation, et ça c'est des Français qui l'ont montré, des chercheurs français du CNRS qui ont montré que c'est parce que nous avons une grosse Lune que l'axe de rotation de la Terre ne fait pas du yo-yo, il est à 24 degrés et il ne fait pas du yo-yo sans arrêt. Sur Mars, qui n'a pas de grosse Lune, l'axe de rotation n'est pas stabilisé et donc les pôles bougent sans arrêt, et tous les 25 000 ans, vous pouvez avoir un pôle très incliné vers le Soleil jusqu'à 40 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça peut passer de 0 degré à 40 degrés d'inclinaison, ce qui veut dire que vous avez des saisons extrêmes d'un côté ou pas de saison du tout de l'autre. Ce qui veut dire que la vie sur Terre, elle a pu connaître des saisons relativement stables et donc a pu se développer. Donc en fait, on va dire que la Terre est dans une configuration idéale pour la naissance de la vie grâce à la Lune. C'est presque le doigt de Dieu, quoi, la naissance de la Lune. Parce que la manière dont ça s'est créé, les conditions statistiques pour le refaire sont quasiment impossibles.
Merci beaucoup Olivier de Coursac. Lune aux éditions Talendier, préfacée par David Scott et James Garvin. Un ouvrage magnifique de photos inédites que vous avez retravaillé vous-même et qui nous donne de la Lune une image tout à fait exceptionnelle. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir parlé brillamment de toutes ces explorations.
Merci beaucoup.